Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi les Legos coûtent-ils si cher? Un texte d'Alex Fontaine, paru le 20 décembre 2025 dans Le Devoir. Que ce soit l'avion de ligne à 150 $, la cathédrale Notre-Dame de Paris à 300 $ ou le Titanic à 850 $, il faut être prêt à vider son portefeuille ou ses REER pour mettre la main sur certains modèles de Lego. Bien que plusieurs soient relativement abordables, ce sont des jouets haut de gamme et ils sont vendus à un prix conséquent, explique Alexis Perron-Brault, professeur de marketing à l'Université du Québec à Montréal. Et est-ce que les prix sont en hausse? Ça dépend vraiment des modèles, répond-il. Plusieurs geeks s'intéressent à la question. Ainsi, sur son blog Pricing Evolution, le stratège en fixation des prix Brandon Hodge a étudié l'évolution du prix des Lego depuis les années 1980 à partir d'un échantillon des modèles les plus populaires tirés de Brickset, un site pour amateurs approuvé par l'entreprise. Le prix par pièce a suivi une tendance à la baisse lors des 40 dernières années lorsqu'on tient compte de l'inflation, note M. Hodge. Alors que plusieurs ensembles sont vendus pour environ 7 ou 8 sous par pièce aujourd'hui, les prix dépassaient souvent les 20 sous avant les années 2000. Par contre, dernièrement, on compte plus d'ensembles avec un nombre élevé de pièces, ce qui peut faire augmenter la facture totale. Peu importe l'évolution du prix à travers le temps, il n'en demeure pas moins que les Lego sont et ont toujours été des produits dispendieux. Voici pourquoi. La qualité. On pourrait croire que construire des blocs de plastique ne coûte à peu près rien. Mais ce serait un raisonnement un peu simpliste. Oui, c'est du plastique, mais pour que ça fonctionne bien, ça prend quand même beaucoup de moules différents et du plastique de qualité, relève Alexis Perron-Brault. Ils mettent beaucoup d'accent sur la qualité du produit, ce qui fait qu'il y a un certain prix déjà à la base. Et ce prix de base n'est pas propre à Lego. Un modèle typique de Lego, sans licence particulière, est d'à peu près 10 sous par pièce. Souligne l'expert. Si on regarde les concurrents comme Lumibricks ou Pantessi, qui sont des concurrents haut de gamme, il n'y a pas de grosse différence de prix. L'idéation. Dans son rapport annuel 2024, Lego indiquait que les coûts de production représentaient son plus grand poste de dépense, à 5,1 milliards de dollars canadiens, suivi à quelques milliers de dollars près par les coûts de vente et de distribution. L'entreprise a aussi dépensé 539 millions en recherche et développement. La conception des modèles demande quand même plus de temps qu'on pense, affirme M. Perron-Brault. Au-delà de l'aspect visuel, il faut penser à la facilité d'assemblage, au plaisir de monter l'objet, à l'âge des utilisateurs. Il y a un gros travail de développement des modèles. Beaucoup de gens font ça à temps plein chez Lego. D'ailleurs, les marques concurrentes dans le créneau haut de gamme ont les mêmes enjeux. Donc, les prix sont très similaires. Les licences. L'Étoile de la Mort, une station spatiale tirée de l'univers Star Wars, est le modèle qui se vend présentement le plus cher sur le site web de Lego. Vous pouvez mettre la main sur ces 9023 pièces pour 1 300 $ plus taxes. Les produits les plus chers sont pour la plupart dérivés de franchises comme Le Seigneur des Anneaux, Avengers ou Harry Potter. Le coût des licences est justement un des facteurs qui explique le prix élevé des LEGO. Par exemple, si vous regardez toutes les licences Star Wars, les prix par pièce sont généralement 30 % plus élevés. Et c'est pas mal exactement le prix de la licence. Ce n'est pas plus compliqué que ça, explique Alexis Perron-Brault. Le créneau pour adultes. Les modèles pour adultes comptent plus de pièces et sont souvent associés à des licences coûteuses. Ils sont donc plus chers. On joue beaucoup sur la nostalgie, constate M. Perron-Brault, ce qui peut amener des gens plus âgés à continuer à acheter ces produits. Les adultes ont aussi des poches plus profondes. Évidemment, quelqu'un qui a 40 ans a probablement plus d'argent à mettre dans les LEGO qu'un enfant de 10 ans. Le profit. LEGO n'est pas cotée en bourse. Mais elle n'est pas non plus une œuvre de charité. L'an dernier, l'entreprise a dégagé un profit net de 3 milliards de dollars canadiens. Cela dit, la marge de profit qui s'élevait à 18,6% est en baisse constante depuis 2021, alors qu'elle atteignait 24%. Il y a plus de pression pour que LEGO abaisse un peu les prix depuis quelques années, puisque la plupart des brevets qu'ils avaient sont échus maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de compétition qu'avant, explique Alexis Perron-Brault. Le marché de la revente. Certains voient les LEGO comme un investissement. Le marché de la revente est florissant et certains modèles sont affichés à des prix beaucoup plus élevés que leur prix d'origine. Le site Brick Economy a construit un indice qui traque le prix des 100 ensembles LEGO les plus populaires. Certains affichent des rendements à rendre jaloux bien des investisseurs. Par exemple, le Quick A Mart, un modèle inspiré des Simpsons, a été mis en vente en 2015 au prix de 230 $. Il vaudrait aujourd'hui 1138 $ sur le marché secondaire, une hausse d'environ 395% ou 19% par année depuis qu'il a été retiré en 2017. C'était « Pourquoi les LEGO coûtent-ils si cher ?» un texte d'Alexandre Fontaine paru le 20 décembre 2025 dans Le Devoir.
Plus écologique, le télétravail? Oui, mais. Un texte de Valérie Simard paru le 20 octobre 2025 dans la presse. Le télétravail est-il plus écologique que le travail en présentiel? Une récente étude réalisée au Québec le confirme, mais met en garde contre les effets rebonds possibles de cette tendance. Adopté par plusieurs entreprises depuis la pandémie de COVID-19, le télétravail est souvent perçu comme une pratique meilleure pour l'environnement. Mais à quel point? Depuis 4 ans, une équipe de recherche de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, en collaboration avec Polytechnique Montréal, se penche sur cette question. Ses premiers résultats, révisés par les pairs, ont été publiés au début du mois d'octobre 2025 sur le site Internet de Climatoscope 360, une revue québécoise de vulgarisation scientifique. Le constat. Une réalité moins prometteuse qu'avancée, affirment les chercheurs. Cette première phase de l'étude met en lumière un cas très spécifique, celui de l'INRS, un milieu universitaire composé de 5 campus et regroupant 1558 employés. Au moins un autre milieu de travail sera étudié, soit l'Auto-Québec. Les résultats sont difficilement transposables à d'autres organisations, reconnaît Samuel Leduc-Renette, co-auteur de l'article. Néanmoins, ça permet de donner un ordre de grandeur d'un scénario à l'autre et d'un poste d'émission de GES à l'autre, soutient le doctorant en sciences de la Terre au Centre Hauterre-Environnement de l'INRS. Puisque le télétravail était autorisé à l'INRS avant la pandémie, l'équipe de recherche a utilisé un scénario fictif de travail 100% en présentiel qu'elle a comparé à la situation actuelle avec 2 ou 3 jours de télétravail. Conclusion. Le scénario avec télétravail entraîne une baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre, GES, de 10%. C'est peu, commente Samuel Leduc-Renette. Si une personne fait du télétravail, la différence sur son empreinte carbone personnelle de 9,1 tonnes de CO2 équivalent par année en moyenne va être de moins de 1%. Pourtant, environ un tiers des 364 répondants à l'enquête de 160 questions ont dit utiliser la voiture pour se rendre au travail pour la totalité ou une partie du parcours. Le travail hybride permet ainsi aux employés de l'INRS d'émettre 419 tonnes de CO2 équivalent de moins que s'ils se rendaient au travail tous les jours. Chalet, voyage et autres effets rebonds. Le télétravail semble donc bénéfique pour le climat, jusqu'à ce qu'on prenne en considération les effets indirects de cette mesure, appelée effet rebond, et les 3 autres postes d'émission que sont le bureau, le domicile et le numérique. Selon Samuel Leduc-Renette, il s'agit de la première étude globale sur le sujet au Québec. Parmi les effets rebonds liés au transport, notons l'achat d'un chalet et les fins de semaine prolongées à la campagne. Mais ce qui plombe le plus le bilan carbone du télétravail à l'INRS, ce sont les voyages à l'étranger, 26% des GES du télétravail. La possibilité de travailler à distance a amené le personnel à voyager plus, montre l'étude. On est dans un milieu universitaire où les profs sont appelés à voyager en vertu de leurs obligations s'ils veulent réseauter, faire connaître leurs découvertes et en faire de nouvelles sur des terrains d'études, note M. Leduc-Renette. On peut imaginer qu'il y ait eu des voyages qui ont été faits pour télétravailler en même temps. Un autre effet rebond est l'achat de matériel informatique, principalement un 2e écran et un ordinateur portable. Les études qui ont été faites sur le télétravail ont exclu la fabrication des appareils, alors que c'est la majeure partie des émissions du numérique pour le Québec, soit 96,6% dans le cadre de cette étude, note Najwa El Abadi, co-autrice de l'étude et candidate à la maîtrise. En comparaison, la consommation d'électricité combinée des appareils, des courriels, de la visioconférence et du stockage représente moins de 1% des GES du télétravail. Selon Madame El Abadi, qui a consacré son mémoire de maîtrise à ce sujet, ses résultats s'expliquent notamment par le fait que l'électricité québécoise est peu carbonée. L'hydroélectricité influence aussi l'empreinte carbone de la climatisation, du chauffage et de l'éclairage des domiciles qui ne compte que pour 1% des émissions de GES du télétravail, soit moins que les biens et services consommés, comme l'achat de mobilier et de papeterie et la livraison de nourriture, 3%. Cependant, l'INRS diminue grandement ses émissions polluantes grâce à la réduction des espaces de bureau que permet le travail hybride. 146 tonnes équivalent CO2 émises en moins. Puisque des employés partagent des bureaux, une vingtaine de personnes n'auraient pas de place assise si tous devaient revenir sur place à temps complet. D'autres effets rebonds ont été évalués, mais non quantifiés dans cette étude, comme le fait de déménager plus loin de son lieu de travail. D'autres recherches nécessaires. Il faudra d'autres recherches avant d'obtenir un portrait plus complet de l'empreinte carbone du télétravail au Québec, reconnaissent les chercheurs. Ils ont tout de même quelques recommandations pour les organisations. Offrir un abonnement mensuel au transport en commun aux employés travaillant majoritairement en présentiel et un certain nombre de droits de passage uniques aux autres. Prolonger la durée d'utilisation des appareils informatiques et prévoir la transformation des espaces vacants en espaces locatifs ou la fermeture temporaire de sites si tous les effectifs sont en télétravail au même moment. Les effets d'une politique de télétravail varient grandement selon le secteur d'activité, la localisation géographique et le scénario envisagé. Un ou deux jours de télétravail par semaine constate Coop Carbone, une firme conseil qui réalise des bilans carbone pour diverses organisations en tenant compte de certains effets rebonds. Le fait de favoriser le télétravail, c'est quand même une réduction des émissions, note Emma Marouani, directrice gestion des GES. Cette baisse est de 3 % à 8 % selon les situations, estime-t-elle. C'était « Plus écologique le télétravail, oui, mais… » un texte de Valérie Simard paru le 20 octobre 2025 dans la presse.
Le Tylenol ne cause pas l'autisme. Un texte d'Annie Labrec paru le 29 septembre 2025 dans le magazine Québec Science. Le président américain Donald Trump et le secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. ont affirmé, sans preuve scientifique, que la prise d'acétaminophène pendant la grossesse serait responsable de l'autisme. Que dit la science? Qu'a déclaré l'administration américaine à propos du Tylenol et de l'autisme? Lors d'une conférence de presse, le 22 septembre 2025, Donald Trump a mis en garde les femmes enceintes. « Ne prenez pas de Tylenol », soutenant que le médicament était associé à un risque accru d'autisme chez le bébé. Quelques mois plus tôt, en avril 2025, Robert F. Kennedy Jr. avait promis de trouver la cause de l'autisme d'ici l'automne 2025. Il propose la leucovorine, de l'acide folique, comme traitement contre l'autisme. Pourtant, les scientifiques s'y attellent déjà depuis des décennies. Les causes de l'autisme sont multiples et complexes. Elles impliquent des facteurs génétiques, plus de 200 gènes sont liés aux troubles, ainsi que des facteurs environnementaux. La hausse du nombre de cas s'explique par un meilleur dépistage et non par une épidémie d'autisme. L'acétaminophène pendant la grossesse cause-t-il l'autisme? Non, aucune étude n'a démontré de lien, de cause à effet, entre l'usage de l'acétaminophène et l'autisme. Cela a été d'autant plus renforcé avec la publication d'une vaste étude publiée dans la revue médicale JAMA. Elle s'appuie sur des données de plus de 2 millions d'enfants nés en Suède entre 1995 et 2019. L'équipe scientifique y a comparé des fratries. Un enfant a été exposé au Tylenol pendant la grossesse de sa mère. L'autre, non. La génétique et l'environnement familial sont donc similaires. L'étude conclut que l'utilisation d'acétaminophène pendant la grossesse n'a pas été associée au risque d'autisme, de TDAH ou de déficience intellectuelle chez les enfants. Les études précédentes avaient remarqué une association, mais il ne s'agissait pas d'un lien de cause à effet. Autrement dit, d'autres facteurs pouvaient avoir joué un rôle. Une femme enceinte ne devrait pas endurer une forte fièvre. Donald Trump a recommandé aux femmes d'endurer la fièvre afin d'éviter de prendre du Tylenol. Or, ignorer une fièvre, surtout pendant le premier trimestre de grossesse, peut nuire au développement du fœtus. La Society for Maternal Fetal Medicine, une organisation médicale spécialisée dans la médecine maternelle fœtale, réitère sa recommandation aux médecins et aux patientes que l'acétaminophène est un médicament approprié pour traiter la douleur et la fièvre pendant la grossesse. Que recommandent les organisations médicales? L'Organisation mondiale de la santé critique le lien établi par Donald Trump entre l'autisme et l'utilisation de l'acétaminophène pendant la grossesse, en soulignant qu'aucune preuve scientifique n'a pu le confirmer. Du côté de Santé Canada, on indique que le médicament demeure un traitement recommandé contre la fièvre et la douleur pendant la grossesse. Qu'est-ce que le Tylenol? Maux de tête, douleurs musculaires, fièvre, courbature. Le Tylenol est souvent utilisé pour soulager ces inconforts. Tylenol est une marque de commerce. L'ingrédient actif est l'acétaminophène, aussi appelé paracétamol dans plusieurs pays. C'était « Le Tylenol ne cause pas l'autisme ». Un texte d'Annie Labrec, paru le 9 septembre 2025 dans le magazine Québec Science.
Votre motivation, vos proches et vos chances de succès. Un texte de Rosemée Autonne T. Morin, paru le 14 janvier 2026 dans la presse. Il y a deux semaines, vous avez probablement pris une résolution. Comment ça se passe depuis? Mal? Vous pouvez blâmer votre entourage. De rien. Bien, dites merci à vos proches. Vous pouvez aussi vous donner une tape dans le dos, bien entendu. Si vous adoptez une nouvelle habitude, c'est grâce à vos efforts. En partie. Même si c'est plate à admettre, on atteint rarement un objectif seul. Souvent, les buts personnels ne sont pas personnels. C'est ce que le Dr. Richard Costner aime répéter. Le directeur du McGill Human Motivation Lab constate qu'on opte régulièrement pour des objectifs qui nous intéressent peu ou qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. On essaie de faire quelque chose parce que les autres nous disent que c'est ce qu'on devrait faire. Sans oublier que le niveau de soutien de nos proches va influencer l'atteinte de nos buts, pourtant dit personnel. Des recherches expérimentales démontrent que lorsqu'une personne pense à sa mère, à son père ou à un ami en accomplissant une tâche, elle travaillera plus ou moins fort en fonction de l'individu imaginé. Il y a des liens entre la représentation mentale des personnes dans notre vie et les choses qu'on tente d'accomplir, m'explique le professeur au département de psychologie de l'Université McGill. Qu'est-ce que la petite voix dans votre tête murmure si vous pensez à votre mère en faisant du sport? Drôle d'exercice, je sais. Noémie Carbonneau est professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les déterminants psychologiques et sociaux des comportements alimentaires. Selon elle, la qualité du soutien de nos proches est l'un des meilleurs prédicteurs de la motivation saine et durable. Sauf que les manières d'encourager autrui ne se valent pas toutes. La plupart d'entre nous a une approche directive, observe le Dr. Richard Costner, c'est-à-dire qu'on tente de résoudre des problèmes. On donne notre avis, on conseille, on veut aider, mais en offrant nos recommandations non sollicitées, on n'encourage pas tellement la personne aimée. on ne lui nuit pas non plus, remarquez. L'effet est dit neutre, sauf dans le cas d'un partenaire amoureux qui encourage activement l'autre à perdre du poids. Ici, on va démotiver l'individu, c'est documenté. Et comme la perte de poids figure dans le top 3 des résolutions prises par les Américains, avec « arrêter de fumer » et « faire plus d'exercice », ça vaut la peine de le préciser. Ce qui favorise l'atteinte d'un objectif, c'est plutôt l'empathie. Noémie Carbonneau affirme « Le soutien à l'autonomie est extrêmement aidant dans la poursuite de buts. On se met à la place de l'autre plutôt que d'imposer sa vision ou sa façon de faire. Ça mène à une motivation plus saine, davantage de persévérance, plus de bien-être dans le processus et même dans les relations. Il faut donc laisser tomber les « tu devrais », même s'ils partent souvent d'une bonne intention. Le docteur Kostner résume simplement la chose. Il s'agit d'écouter, puis de poser des questions. Comment as-tu eu cette idée? Tu penses à quoi comme plan? Comment ça se passe jusqu'à présent? Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un coup de main? En théorie, c'est facile. En pratique, ce l'est moins. Les buts touchent souvent les habitudes de vie et ces comportements-là peuvent jouer un rôle dans notre relation, reconnaît Noémie Carbonneau. Par exemple, si on prend quelques verres en amoureux chaque samedi pour se détendre et que notre chum nous dit qu'il veut moins boire, ça peut être très déstabilisant. L'activité a une fonction pour nous. Il faut démêler ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Si on souhaite bouger davantage et que notre partenaire nous encourage à rattraper le dernier épisode de Stat collé sur le sofa plutôt qu'à aller marcher, ce n'est pas motivant non plus. Puis, au-delà de ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. C'est fondamental d'avoir un conjoint qui croit en toi, mais avoir un conjoint qui va chercher les enfants pendant que tu fais ta longue course, c'est vraiment aidant, illustre Noémie Carbonneau. Puis l'aide, on va la prendre partout où on le peut. Pourquoi? Parce que c'est incroyablement difficile à concrétiser une résolution, souligne le docteur Kostner. En général, il faut essayer entre 6 et 8 fois avant d'honorer la promesse qu'on s'est faite. Il a d'ailleurs personnellement adopté un truc pour augmenter ses chances de réussite. Comme le janvier québécois est pénible et qu'il nous demande déjà beaucoup d'énergie, le professeur de l'Université McGill reprend ses résolutions le 1er juillet. Depuis qu'il relance ses objectifs à la Fête du Canada, il les atteint beaucoup plus souvent. Et comme le docteur Kostner reconnaît qu'il y a des tensions politiques au sein de la province, il souligne que le 24 juin est un tout aussi bon moment pour se redonner un élan. C'est un choix personnel, si une telle chose existe. C'était « Votre motivation, vos proches et vos chances de succès », un texte de Rosemée Autant-T. Morin, paru le 14 janvier 2026 dans la presse.